Inkibila, bonjour. Donc, très heureux de vous rencontrer à l'occasion de la sortie du livre 4 de votre série Bug, paru aux éditions Casterman. Hal, Minority Report, Tron, Ares, Chien 51, le dernier Jiménez. Comme vous dites dans le livre 1, la machine qui se retourne contre l'homme. L'intelligence artificielle, ça vous fait peur?
Alors, bah oui. Ça m'excite et ça fait peur. C'est toujours pareil, hein, avec les inventions incroyables de l'humain. C'est Paul Virilio qui disait ça très bien. Avec chaque sublime invention, il y a l'horrible accident qui va avec, quoi. Donc, on a un truc magnifique, l'intelligence artificielle, et je suis très surpris par la vitesse avec laquelle c'est introduite dans nos vies. Donc ça, je dois dire, je m'attendais pas à ça. Franchement, je fais partie de les gens qui ont une culture science-fiction, donc l'intelligence artificielle fait partie des grands thèmes que
des voilà. Mythes à l'époque finalement.
Oui, oui. Ouais. Mais là, la manière dont c'est arrivé et surtout ça, la manière dont ça progresse de manière incroyable en dehors de notre connaissance. On ne sait pas là, à quelle vitesse ça s'amplifie, ça se démultiplie, donc on est, y compris les inventeurs, ceux qui travaillent dessus sont les premiers à être
surpris.
Ouais, et voire terrifiés par ce qu'ils ont ouvert comme boîte de Pandore. Il y a ça, hein. Mais il est évident que ça va produire des tas de choses positives, magnifiques, sur le plan médical, sur le plan scientifique, sur tout un tas de plans comme ça, mais il y a le danger toujours de. Je pense que le premier danger, ça va être la scission en binaire du monde. Déjà, ça existe le binarisme. On est tous, on baigne là-dedans. Vous avez remarqué la nuance, c'est interdit aujourd'hui. On peut plus. La zone grise, on peut pas. Si on dit quelque part sur un plateau de télé, mais vous croyez pas que on pourrait discuter de ce point? Non. C'est comme ça ou c'est comme ça. C'est un camp ou l'autre, blanc ou noir, gauche droite. Enfin bon. Consternant.
Le wokisme est là.
Le révisionnisme aussi de l'autre côté. Enfin, on est dans un truc. Et ça, c'est le problème, c'est que tout ça, ça avance derrière, et cette connaissance qu'on risque de perdre nous beaucoup sur le plan de la mémoire déjà, et surtout donc le côté binaire du monde va s'accroître avec les nantis qui seront plus riches. Ils seront pas plus nombreux, mais qui auront tout le pouvoir de l'intelligence artificielle la plus sophistiquée, et le reste de la population mondiale, ça sera du 99% aura droit à une intelligence artificielle au rabais. C'est-à-dire qu'on va essayer de satisfaire la globalité de la planète, mais le pouvoir sera plutôt aux mains d'une caste financièrement puissante et scientifiquement puissante. C'est ça le grand danger. Je suis pas le seul à le dire. Des vrais analystes craignent ça. Donc ça, c'est un vrai problème purement social et sociétal. Voilà.
Mais en fait, j'allais vous poser le problème d'un des thèmes que vous traitez, c'est celui de la conquête de Mars. Et donc finalement, est-ce que vous croyez que on va arriver à quitter la Terre pour partir, un peu et en arriver à un nouvel Éden? Et là, fatalement, on va se retrouver avec les castes en question, un peu comme vous traitiez déjà dans le bunker à la Sautelle. Hein.
Mais moi, je pense que l'homme va, ça aussi, c'est une spécificité de l'humain, c'est de conquérir, d'aller toujours plus loin. C'est un peu comme les chats. Les chats, ils ont besoin d'étendre leur territoire, hein. Ils peuvent toujours voir ce qu'il y a au-delà. L'être humain est un peu comme ça. Il a moins d'élégance et moins de félinité que des félins. Mais il y a ça qui nous caractérise. Donc, je pense que tout sera mis en place, en œuvre pour y arriver. Et Elon Musk en est un exemple. Alors, il n'est pas sûr qu'en 2040, je situe l'histoire en 2040, l'homme est déjà posé le pas sur Mars. En plus, comment revenir sur
Terre d'allumer. On ne sait pas à quelle vitesse les choses vont évoluer.
Oui, mais en même temps, je pense que scientifiquement, d'une manière purement scientifique, ça va être compliqué de faire ça dans les 20 ans qui viennent. C'est ce que mais Musk, il dit que dans 10 ans, il a envoyé quelqu'un sur Mars. Mais bon, on verra. Mais en même temps, il a réussi à poser une fusée en l'envoyant autour et puis il revient se poser comme ça à la verticale. Donc c'est quand même assez sidérant. Donc, mais je pense pas que c'est un grand thème de science-fiction. Je pense pas que l'humanité puisse, à un moment, migrer vers un autre Éden, une autre planète pour survivre. Je pense que, on disparaîtra forcément, et on disparaîtra ici, sur notre...
C'est pour ça qu'ils s'en occupent très, très, très mal de nous.
Notre petit
bout de caillou, notre caillou perdu comme ça dans l'espace. On s'en occupe très, très mal.
Est-ce que c'est pas les écolos qui vont nous aider à faire du
Alors, prochain? Est-ce que vous croyez qu'on est à une fin de cycle et que des continents comme l'ancien continent sont voués à disparaître?
On est une fin de cycle géopolitique, idéologique et économique. Alors, je pense que tout ça c'est lié. Moi, je dirais, c'est une forme de fin d'Occident qui approche. Ah, c'est une fin. Ça va pas s'arrêter comme ça. Une mutation. Donc, il y a une mutation en cours.
C'est pas comme à la préhistoire, quoi.
Ouais. Non. Là, on est. Il faut passer d'un capitalisme qui a failli, qui n'a pas fonctionné. On peut quand même le reconnaître. Et donc, la mutation est en cours. C'est un sujet intéressant, mais on va pas le développer ici. Mais donc, je pense que ça va se. C'est les 10-15 ans qui viennent vont être essentiels à cette espèce de mutation. Mais le monde s'est totalement recomposé. On peut voir comment Poutine, avec ce qu'est devenu Poutine, ce que Trump, l'arrivée de l'autre côté, nos États-Unis, la Chine qui monte, bref, l'Amérique latine qui se réveille, l'Inde. Donc on est dans, et puis bon, l'islam aussi qui progresse et de là. Donc c'est très compliqué, mais en même temps, tout ça se met en place. Hein.
2042, donc l'époque de Buck. Quelle est la place de Dieu? Est-ce que c'est devenu une sorte de mixte? Parce que vous avez une interpellation Allah, Jésus, Jéhovah, et puis aussi vous parlez à Marseille de l'esplanade des trois monothéismes, cathédrale, synagogue, mosquée. La religion, enfer, paradis.
Alors. J'ai fait un travail avant sur la religion, c'est pour ça que je cite de manière un peu comme ça,
anecdoté,
parcellaire, voilà. C'est Sommet du Monstre et puis 32 décembre, toutes ces séries-là, où j'avais malheureusement annoncé les attentats du 11 septembre. L'obscurantisme religieux, je l'ai traité déjà. Vraiment, ça a été de grands thèmes de ces quatre albums. Donc, je réutilise uniquement cette idée de. Je préfère faire ça d'ailleurs que plutôt que de scinder, d'être dans le réel et de dire telle religion plutôt que telle autre. Donc, je mets les trois monothéismes toujours ensemble. En disant que les dérives religieuses produisent la monstruosité. Donc, c'est les excès, Donc, c'est une façon, on va dire, diplomatique de traiter le sujet. Mais de montrer simplement qu'il est toujours présent.
Pourriez un petit peu nous parler de la symbolique de la murène et la murène bleue?
Écoutez, c'est ça qui est intéressant, ça va être très décevant ce que je veux dire. Symbolique, là, je laisse les psychologues, psychiatres, les philosophes, gloser dessus. Non, les choses se font de manière très, très intuitive et instinctive. Je raconte l'histoire, je la vis avec les personnages, réellement. Je connais plus ou moins la fin. Je sais que de 5, il va falloir que je sorte tout un tas de... Donc, c'est hyper important. Le 4 a été chiant. Je contrôle, je dirais, la progression narrative, philosophique et le rythme de l'ensemble. Je contrôle en permanence, mais je laisse arriver les événements de manière très... très intuitive. Et par exemple, la murène. Alors, pourquoi la murène? Je voulais que se déclenche dans l'intérieur du corps du personnage principal, qui est squatté par un bug. Je voulais qu'il y ait une scission en deux de ce bug dans son corps, et qu'il y ait le bien et le mal qui s'affrontent. Voilà. C'est le côté binaire dont je parlais tout à l'heure. Je voulais que parler de ça. Et le bien et le mal, il n'y a pas plus binaire. Depuis le début de l'humanité, le bien et le mal s'affrontent sur tous les plans, dans les religieux, dans le guerrier. Enfin, bon, bref, donc tout ça, on connaît. Et donc, je voulais que le mal prenne le pouvoir pour redynamiser le récit et pour mettre en danger le personnage. Et donc, je lui suis recraché. Tout simplement, il est au bord de la mer, en Libye. Et c'était dans le 3, c'est la fin du 3. Il recrache un des bugs. Et c'est le bleu. Il recrache le bug du bien. Il le sait pas, il s'en rend pas compte. Et là, ça bascule à la fin du 3, et on sent le mal, le bug du mal est en train de prendre possession de son corps et de son âme, puisqu'il commence à perdre la mémoire. C'est la fin du 3. Alors, lorsqu'il recrache ça, je me suis dit, il va pas le recracher, ça va pas se perdre dans l'océan, dans la mer Méditerranée, comme ça, et disparaître. Il dit, j'ai absolument besoin de ce bug recraché. Je me suis avalé par un poisson.
Lequel?
La murène, même si il n'y a pas de murène comme ça en bordure de plage, et sans, ils ont besoin de rucher, de se planquer, etc. Mais je sors une murène qui n'est pas bleue, celle qui l'avale n'est pas bleue. Donc elle l'avale et je me dis, je mets en réserve, je verrai ce que j'en fais. Mais c'est exactement comme ça que ça se passe.
C'est ça.
Et donc j'arrive dans le 4, et là, le personnage il est pris par le mal, donc il est littéralement il est possédé, il va commencer à faire du mal, le mal, ça peut faire très mal, quand un personnage comme ça fait le mal. Et donc, je me suis dit, il faut que je le ramène il faut que je le ramène vers le bien, pour finir l'histoire, en 5 volets, comme prévu. Et là, je me dis, bon, alors, la murène a avalé le truc, je me dis, on va repêcher une murène, mais ce sera pas celle-là. Mais ce sera une des murènes contaminées. Tout d'un coup, elles sont toutes devenues bleues, donc dans une zone comme ça, près de la...
Comme ça, autour du personnage.
Autour de... Pas exactement. Et le bleu est emblématique du bug du bien. Et donc, autour de l'île d'Ampedusa, où l'action se déroule, il va suffire qu'on trouve une murène bleue et qu'on prélève de son sang le principe du vaccin. C'est pas moi qui ai l'idée, c'est le personnage de Junia qui est un médecin. Et là, cette idée, en disant, il faut essayer ça, on ne sait jamais, ça peut marcher, c'est le principe de la technologie. Et ça marche. Voilà. Donc, donc tes choses se construisent comme ça, de manière très, 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 très logique et intuitive. Et logique, je crée une logique qui est absurde.
Ouais, mais en même temps. Bleu qui confère l'immunité, c'est votre couleur préférée?
Je peux pas dire ça, non.
Je dis pourquoi l'avoir choisi finalement.
Le bleu, non, là, c'est ça date depuis longtemps. Oui, c'est une couleur qui me plaît. Oui, mais en même temps, je m'habille pas en bleu. Les murs chez moi sont pas bleus. Non, c'est vraiment, c'est un langage. La couleur, c'est un langage. Et j'aime bien utiliser le langage, la couleur, comme j'utilise le langage des mots. Il y a pas pour autant, je peux pas dire qu'il y a des mots que je préfère. C'est un ensemble. L'ensemble des mots constitue un concept, une idée, une description. Donc là, c'est fort quand l'ensemble est là. Et c'est un peu pareil. Le bleu, il existe aussi dans tous ces livres que je fais en fonction des autres couleurs. Donc je n'isole pas une seule couleur. Mais le lecteur le sait systématiquement et tous les journalistes me posent la question.
Dans certaines planches, on voit des coups de pinceau. Je me suis demandé si vous arrivez de peindre vos décors pour vous mettre en condition.
Comment ça, de peindre les décors pour...
Chez vous, est-ce que vous faites d'abord une peinture pour vous inspirer ou
Non, je peins, je vais directement à l'essentiel. Non.
Est-ce que vous êtes de nature optimiste, en fait?
Oui, je pense, oui. Oui, je pense que je suis lucide. J'essaie d'analyser les choses avec mes compétences, mes connaissances, ma sensibilité, tout simplement, que ce soit la politique ou autre chose. J'essaie de la situation, par rapport à ma vie, donc tout ce qui est. J'essaie d'être pas pragmatique, mais un peu, je me laisse pas quand même embarquer dans des trucs délirants uniquement. sur des coups de tête, je peux faire des erreurs, hein, mais donc je suis plutôt lucide. Alors pour la lucidité, pour moi, c'est pas du pessimisme. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est, je sais pas qui a dit ça, mais ça reflète tout à fait mon état d'esprit. C'est un pessimiste, c'est un optimiste qui a compris.
Est-ce que finalement, vous écrivez, vous dessinez dans la science-fiction, est-ce que ça a un côté thérapeutique pour vous?
Oui et non, mais j'ai pas. Ça voudrait dire que j'ai peur de l'avenir. J'ai pas peur de l'avenir. J'ai pas peur du présent. Je vis. Je suis un être humain parfaitement normal. Je n'aime pas la mort. J'aime pas la maladie. Tout ça, ces choses. Voilà. Mais non, j'ai pas. C'est en fait, je pense que c'est le réel. C'est quelque chose que je vis, comme nous vivons tous. Quand on est artiste, créateur, ressasser le réel, créer du réel, sur le réel, dans le réel, dans une vie réelle, je trouve que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Même si Proust, c'était des œuvres magnifiques. Mais c'est pour ça que je suis pas, moi, l'autofiction, ça ne m'intéresse pas. Les trucs de genre, c'est amusant, mais c'est pas non plus vraiment mon truc. Le polar, j'adore. Le consommateur, hein, la SF, je l'adore aussi. Mais disons que j'essaie de me fabriquer un terrain de jeu personnel qui part du réel, du présent, qui conjugue avec le passé. Le passé est très important, la mémoire, c'est comme plus essentiel. Donc cette mémoire du passé à conjuguer au présent, ça donne une projection, ça me donne, moi, une projection d'un terrain de jeu qui est dans un avenir proche et qui me permet de bâtir des récits, de me poser des questions, et puis voilà, de lancer des... Alors, c'est pas des alertes, même si on peut se dire, c'est ce qui me départ. Je sais pas, quand je parlais d'obscurantisme religieux, c'est parce que là, j'ai vraiment peur que ça arrive. Je savais que ça arriverait. Et c'est arrivé, donc c'est de la lucidité.
On parle aussi dans Bug, dans le 3 et dans le cadre de Chess Boxing,
oui,
que vous avez créé dans Froid Équateur en 92, mélange boxe anglaise et jeu d'échecs, c'est une pratique que vous avez ou ça vous maintient en forme?
Ça fait sortir dans donc non, je suis pas boxeur, je suis non, je boxe pas, mais je joue aux échecs. Non, j'ai trouvé cette idée un peu sur un délire comme ça. Ça vient, ça
parlait de vous aussi dans
oui, dans. Alors je cite et je vais tous
sans mettre les noms, enfin, on a compris.
Et je lis en plus d'un genre littéraire qui a disparu peut-être en parlant de la bande dessinée, donc au moins ça préestie.
Oui.
Et puis je pense d'ailleurs que c'est un peu le cas, ce qui risque d'arriver. Mais en tout cas, c'est je trouvais ça sur un coup de tête, ça avait du sens. Dans le Froid Équateur, ça avait du sens. Il se trouve qu'un artiste néerlandais, Hyper Rubing, a mis ça en pratique, avait un prénom. Il m'a dit, est-ce que vous êtes d'accord? On est devenus amis, vraiment. Je l'ai suivi, on a suivi. Et on a créé cette espèce de fédération internationale qui maintenant, c'est un sport qui est pratiqué de manière très, très sérieuse avec des règles très précises. Donc le but d'ailleurs, c'est d'arriver d'en faire un sport olympique. Je trouve que ça a plus de sens que
dans le futur. Comme on le mentionnait, il est devenu.
Eh ben oui, ça a plus de sens de pouvoir devenir un sport olympique que le curling, par exemple.
On parle un petit peu cinéma. Vous avez collaboré à René, Anno, Michael Mann et même Chalivet. Est-ce qu'il y a un fil rouge entre ces metteurs en scène de...
C'est des rencontres. Ouais. C'est des rencontres. C'est pas moi qui suis allé les chercher. C'est eux qui sont venus me chercher. Alain René d'abord, pour les affiches, ensuite pour le décor, une partie des décors de La Vie est un roman. Ensuite, Michael Mann, il m'a contacté. Il avait des problèmes avec une créature dans son film La Forteresse Noire, il n'arrivait pas à être satisfait. C'était un film douloureux pour lui. C'est un film malade. Le chef opérateur est mort pendant le tournage. Enfin, c'est un film un peu maudit, quoi. Donc il m'a demandé de créer ce monstre, ce que j'ai fait un peu sur un. Ça me souvient. J'aurais toujours de ça, je reçois un message de Michael Mann, donc son agent m'appelle. Je savais qu'il était Michael Mann, j'étais surpris. Et en gros, me demandait de venir le lendemain, de prendre un avion privé qu'on m'a emmené au Pays de Galles.
Ouais.
Pays de Galles, sur un lieu de tournage, dans une mine désaffectée, dans un décor absolument incroyable, voilà. Et je me retrouve là-bas, ensuite je me retrouve au studio de chez Porton et tout, enfin bon, bref. Donc j'ai dessiné très vite, on a fait des trucs rapidement et on est resté, respect, amitié entre lui et moi. Voilà, donc c'est une rencontre là encore. Et ensuite, il y a eu Jean-Jacques Hano, c'est pareil, il a demandé, c'était pour en pré-production, donc il a demandé à plusieurs dessinateurs, j'étais pas le seul là, choisir deux scènes dans son script. Il nous a donné le script, et chacun choisit deux scènes et fait une représentation, dessine, représente ces scènes, et lui, il a eu l'élégance de les prendre, de choisir chacun de ses dessins pour l'inscrire dans sa mise en scène. Donc c'est plutôt, ouais, plutôt marrant. C'est assez sympa. Et puis bon, les autres, que ce soit après le chocage pour le ballet Roméo et Juliette, tout ça, ce sont des rencontres, c'est des gens qui viennent, qui ont envie de partager. Moi, dans ces cas-là, je suis très souvent.
On parlait avant l'entretien d'une autre rencontre, celle de Jean-Louis Trintignant, avec qui vous avez quand même tourné deux fois.
Oh, même trois fois, même dans Immortel, il apparaît en...
Il y a chez lui, je trouve, un côté candide, un peu comme le mouton enragé au début, et après, il devient complexe, noir, machiavélique. Ben, comment vous le percevez, vous?
Ah non, mais c'était un manipulateur, c'était un pervers aussi, mais très joueur aussi, enfin très joueur. Et moi je voyais le côté qui peut, ouais, il pouvait être cruel et cynique, hein, j'ai envie d'en jouer, manipulateur. Mais c'est ça qui faisait le balai du personnage, hein, bien sûr, de manipulateur, quoi. Ouais.
Le Bug, la série, donc, est sortie chez Casterman. Vous aviez déjà édité pas mal de votre collaboration avec Pierre Christin, qui est décédé l'année dernière, et avec qui vous aviez d'ailleurs coécrit Bunker Palace.
Voilà, Jean-François Idoil.
Comment ça se passe avec un éditeur avec qui vous avez quand même des relations assez suivies? Vous avez carte blanche pour fonctionner?
Alors, avec Pierre Christin, c'était une époque déjà un peu lointaine où, mais on proposait évidemment un scénario. En plus, quand on travaillait deux, bon, on discutait, ou Pierre me proposait un scénario, ce qui était le cas des Phalanges de l'Ordonnement. Mmh. J'ai une idée, ce que tu as écrit sur une page, il m'envoie ça, je regarde ça, il me dit, mais c'est génial, on va le faire. Ouais. Je dis, mais qu'est-ce que je peux faire? Moi, je peux rien apporter là-dedans, j'ai juste à mettre en scène, en image. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Et après, je lui dis, bon, écoute, moi, je me suis mis au service de ton scénario pour les Phalanges. Maintenant, j'aimerais que tu te mettes un peu fin de mes envies. Partie de chasse, j'ai pas dit partie de chasse, je veux quelque chose sur les pays de l'Est. Moi, j'ai envie de qu'on parle des pays de l'Est, etc. Et là, comme ça, à un moment donné, il m'a dit, partie de chasse, on va faire lier des chasses. Je lui ai dit, oui, je sais, Tito, chassé, etc. Ils se connaissent tous. Et donc, c'est comme ça que c'est né. Et tout ça, c'est de la liberté entre deux auteurs. Et l'éditeur, dans ces cas-là, on lui propose le sujet et il dit oui. Maintenant, depuis que je travaille seul, j'ai quand même un succès, une reconnaissance. Donc, je suis parfaitement libre. Mais par honnêteté, forcément, je dis d'abord à l'éditeur ce que j'ai envie de faire, comment je vais le faire. Mais il n'y a plus du tout de scénario, j'écris pas, enfin voilà, j'écris tout au fur et à mesure, je peins, je dessine, tout, c'est un travail comme ça au long cours et très très intuitif, et l'éditeur me fait confiance. C'est plutôt une très très bonne chose et j'ai beaucoup de chance.
Un Kim Bulin, un grand merci. Donc, on rappelle Buck, livre 4, il vient de sortir chez Casterman, et ça vous donne surtout l'occasion d'aller relire les trois premiers, bien entendu.
Ah oui, quand il y aura le 5.
Merci beaucoup.
Merci.